Les passions de Camille avec Camille Chai.
Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Ici Camille Chai. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux personnes. La première se nomme Sonia Arsenault. Elle est originaire de Bonaventure, en Gaspésie. Elle vit avec la sclérose en plaques depuis l'âge de 25 ans. Mais je vous préviens, sa bonne humeur est contagieuse. Et mon deuxième invité s'appelle Alex Boivin. Lui est originaire de Gatineau, en Outaouais. Il est né avec des malformations au bras et à la jambe droite, mais il est aussi étudiant et entrepreneur en gestion artistique. Alors, il me tarde d'aller leur parler. Vous écoutez Les Passions de Camille. Sonia Arsenault, bonjour.
Bonjour, Camille.
Tu vas bien?
Oui, très bien.
C'est un plaisir de te recevoir à l'émission. On a eu la chance de se parler un petit peu ensemble, toi et moi, avant. Donc, comme je le disais, hein, tu es, toi, de la Gaspésie. Donc, est-ce qu'on dit que c'est le village Bonaventure?
Oui, c'est le village de Bonaventure.
C'est un petit coin de paradis, hein, à ce qui paraît.
Oui, oui. Il y a l'île Bonaventure, mais c'est à 1h30 de chez moi.
Ah, OK,
c'est
quand même.
C'est vraiment différent. Oui, c'est vraiment l'île Bonaventure à Percé. Puis Bonaventure, le village, c'est 1h30 avant.
Très bien. Bon, on aura la chance d'en reparler tout à l'heure, mais j'aimerais, je l'ai dit, hein, donc tu vis avec la sclérose en plaques depuis l'âge de tes 25 ans, sachant que tu en as 47 aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, comment tu l'as découvert, comment tu as appris à vivre avec cette fameuse sclérose en plaques?
Je l'ai su à 25 ans, mais j'avais pas de symptômes, j'étais juste un peu fatiguée. Puis je travaillais beaucoup, fait que ça, tu sais, j'avais pas fait le lien à ce moment-là. Puis je l'ai su parce qu'il y en a beaucoup dans ma famille, parce qu'on est comme 17 dans cette génération. Mm. On était 17 en 99, puis là il y en a eu d'autres depuis.
Okay. Puis
j'en ai des deux côtés, de ma mère et de mon père.
D'accord. Fait que,
on faisait à ce moment-là une recherche génétique, j'imagine.
Mm-hmm.
Fait que c'est là que je l'ai su. Mais quand j'ai eu mon accident de voiture en 2001, je me suis cassé le fémur. Puis avant de m'opérer, le docteur m'a dit « ça pourrait déclencher ta sclérose en plaques ». Fait que j'ai demandé c'était quoi le deuxième choix, mais il n'y en avait pas.
Ouais.
Fait que j'avais une chance sur deux de déclencher ma sclérose.
Mm.
Et puis ça, j'ai eu mal à la jambe, j'avais le fémur recassé. Puis en 2003, je me suis fait retirer ma tige qui tenait mon fémur.
Mm-hmm.
Puis ça a comme pas revenu. Donc, c'est la sclérose en plaques qui s'avait comme mêlée à ça.
OK.
Fait que c'est ça. C'est donc, mes jambes qui fonctionnent plus.
Carrément. Donc, tu n'as plus aucune sensation?
Oui, je sens tout.
OK.
Mais je peux plus marcher.
D'accord. Donc, et là, c'est ça. C'est, en fait, ce qui s'est passé, c'est vraiment la sclérose, elle était un peu endormie. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça avant ton accident de voiture?
Ben, je sais pas comment qu'on peut dire ça, mais dans ma tête, c'était comme je portais le gène.
Mm-hmm.
Puis il y avait toute situation aurait pu le déclencher n'importe quand.
Effectivement. Donc au final, la vie fait son cours, puis ton attitude de dire bon ben oui, c'est comme ça, c'est arrivé. On sait pas qu'est-ce qui se serait passé si c'était pas ça, mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça.
Oui, c'est ça. On passe à autre chose, on vit avec.
Et oui, exactement. Donc oui, ça demande une énorme acceptation. Est-ce que ça s'est fait rapidement dans ton cas ou...
Non, ça s'est pas fait rapidement, je peux pas dire ça.
Mm.
Je peux dire que ça a pris un peu comme 10 ans parce que j'ai passé, tu sais, j'avais une canne à cause de ma fracture du fémur. Fait que là, tranquillement, pas vite, j'ai eu besoin d'une marchette, d'une chaise roulante manuelle. Puis finalement, je suis dans chaise roulante électrique à ce jour depuis... Depuis 2013, je dirais.
D'accord.
Donc, ça fait 8 ans.
Donc, ça a été...
Ça passe vite.
Oui, ça passe vite, mais bon, ça a été progressif, donc.
Oui, j'ai eu le temps de m'adapter aux différents deuils. J'en ai eu beaucoup, mais tu sais, j'avais le temps de pas tout vivre mes deuils en même temps. Là.
Non, de toute façon, ça aurait été trop, non?
Ben, il y en a qui sont capables de passer par-dessus.
Mm-hmm.
Il y en a qui prennent des accidents ou quelque chose comme ça. Fait qu'ils ont tous les deuils que j'ai passés en 10 ans.
C'est vrai.
Dans une nuit, là, tu sais, ou une journée, là, tu sais.
Et ce serait quoi les mots que tu pourrais mettre sur ces différents deuils? C'est en lien avec quoi, concrètement?
Je peux dire que j'avais quelque chose à apprendre là-dedans. Mm-hmm. Puis ça m'a permis d'être une meilleure personne. Étant donné ce que j'ai vécu.
C'est incroyable, cette façon de voir les choses et de les vivre, qui finalement, ça se termine toujours en positif, non?
Bien, pour moi, en tout cas, je préfère voir ça de cette façon-là. Parce que oui, je peux plus marcher, je suis en fauteuil roulant, mais j'ai toujours une belle vie, je peux toujours voir mes amis, je peux toujours... j'en arrive à oublier que je suis en fauteuil roulant, et mes amis aussi. Quand on organise des activités ou des soirées, un moment donné, on pense que, oups, ma chaise ne rentre pas là. Fait que c'est vraiment plus facile à vivre comme ça, là.
Donc, comme quoi, le fait d'avoir une bonne attitude, oui, c'est une formule gagnante, mais souvent, avec les gens qui sont autour de nous, les amis, la famille, ils ont un rôle très important.
Oui, ça nous aide beaucoup, ça, c'est sûr. Ton entourage, je pense qu'il faut être entouré. Là, tu sais, j'aurais de la misère à imaginer vivre tout ça seul, isolé. La pandémie a fait de nous beaucoup de monde qui s'est isolé, là.
Mm-hmm.
Puis ça n'a pas été mon cas. Fait que ça, je l'apprécie encore plus. Ça me l'a peut-être fait réaliser encore plus.
Complètement. Puis parce que la pandémie, en fait, j'aimerais savoir, ça ne t'a pas trop affecté, comme tu dis, parce que quoi, toi, au final, en fait, pas au final, mais en général, tu reçois quand même de l'aide, donc du CLSC, plusieurs fois par jour.
Oui, je veux dire que je vis seule en appartement.
Oui.
Et puis, j'ai de l'aide du CLSC, comme, tu sais, ils viennent me lever, ils viennent me coucher. Puis, j'ai chèque emploi service qui vient pour mes repas. Donc, j'ai officiellement 4 personnes qui viennent dans la journée par des petites demi-heures, des petites heures, là.
Mm-hmm.
Mais ça fait que je suis vraiment pas isolée. J'ai toujours quelqu'un qui vient, tempête ou pas.
Oui.
Il y a quelqu'un qui vient m'aider parce que je peux pas faire ça toute seule. Alors, ça vraiment pas paru, comme beaucoup de gens me disaient, on voit plus personne. T'sais, je voyais juste plus mes amis,
mm-hmm.
mais étant donné que j'avais d'autres personnes à voir, ben ça n'a pas été trop pénible.
Ça, c'est un point positif, malgré tout, du fait de recevoir leurs visites de façon régulière.
En plein ça. Oui.
Mais tout en te laissant quand même une indépendance et donc une qualité de vie.
Oui, effectivement, parce que quand je me suis séparée, finalement, j'ai appelé mes intervenants, mon stade disait que j'aurais été en centre d'accueil.
Mm-hmm.
Il n'était pas question que je sois en centre d'accueil. Fait que j'ai dit non, on va trouver une autre solution. Moi, je suis trop jeune pour aller en centre d'accueil. J'avais 40 ans à ce moment-là.
Mm-hmm.
Fait que je me dis non, je peux rester en appartement. J'ai regardé les services qui s'offraient à moi. Puis oui, eux autres, ils ne croyaient pas, mais ils m'ont donné la chance d'essayer. Ça fait 7 ans que je suis ici, puis il n'y a rien qui va plus mal. Va toujours de mieux en mieux. Là,
mais c'est génial d'entendre ça, parce que donc tu parles de ta séparation, tu étais en couple avant, et tu dis que malgré tout, malgré la séparation et tout ce que ça fait vivre, le point positif pour toi là-dedans, ou en tout cas en lien avec ton handicap, entre autres, c'est que tu as gagné justement... plus d'aide, plus d'avantages que tu avais moins avant, étant en couple.
Oui, parce que quand on est en couple, je ne savais pas à l'époque, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas non plus, mais on se fie beaucoup sur ton conjoint, tu sais, la personne, ton aidant naturel,
oui.
Finalement, que ce soit en couple, en famille ou n'importe quoi.
Oui.
On se fie beaucoup sur cette personne-là. Donc, on ne t'offre pas systématiquement les services que tu pourrais avoir besoin, parce que on se dit que c'est quand même comblé. Mais quand j'ai tombé seule, ben là, j'ai eu de l'aide du CLSC. Ça avait pas l'air d'être différent, là, ça avait pas l'air d'être une nouvelle situation, là, tu sais.
Mm-hmm.
Ils me donnaient des services le matin, le soir, tu sais. Ils m'ont donné des heures pour que je puisse avoir des services dans la journée. Fait, puis ça, je pense que ça leur coûtait moins que de mettre en centre d'accueil. Puis moi, ma santé mentale était beaucoup mieux qu'en centre d'accueil, c'est sûr.
Mm-hmm.
Fait que non, ça n'a pas été un échec. Oui, j'ai eu de la peine de ma séparation,
oui.
Mais j'étais bien en couple. Je peux pas dire que j'étais pas bien.
Mm-hmm.
Sauf que j'ai une autre vie depuis que je suis célibataire. à vivre seule, là.
Oui.
Puis être encore plus avantageux parce que parce que je dépends plus de personnes de subjectifs, là, tu sais.
Oui.
C'est vraiment des gens objectifs qui viennent m'aider. Donc, ça passe pas tout le temps la même personne.
Effectivement.
Oui.
Mais y a, en fait, tout ton bonheur et tout ce qu'il y a de positif pour toi qui t'arrive, quelque part, c'est toi qui l'as mérité, mais c'est toi qui es allé le chercher aussi, encore une fois, de par ton attitude de fonceuse, parce que plusieurs personnes t'ont sans vouloir te mettre des bâtons dans les roues, loin de là, mais te disaient « Oh non, ça pouvait être décourageant, en fait, les commentaires que tu recevais versus ton objectif à toi de dire « Non, je veux pas aller en résidence, je veux mon propre logement, je veux... » Tu avais complètement confiance en tes ressources, en fait.
Oui, je suis une fille qui était fonceuse avant aussi, je pense, que mes amis pourraient vous le dire, que j'ai des objectifs, puis je fais tout ce que je peux pour y arriver. Fait que là, mon objectif, c'était, OK, on cherche, qu'est-ce qui est possible? Il y a des appartements disponibles sur le même plancher, pas d'escalier.
Mm-hmm.
J'aurais besoin de ci, ça. Bon, je me suis organisée pour l'avoir. Puis comme j'avais vendu ma maison, c'est sûr que les sous n'étaient pas un problème, parce que je sais que les sous, c'est souvent un problème.
Oui,
là.
Oui.
Mais le gouvernement nous donne quand même une subvention, le PAD, pour nous aider. Mais étant donné que j'ai voulu que ça se fasse vite, bien, j'ai été au-delà du PAD, même si on me disait « ça se peut que c'est pas accepté, ça se peut que c'est pas accepté
mm-hmm. ».
Mais là, moi, j'en avais besoin tout de suite. Fait que j'étais prête à faire des compromis pour ça. Puis quand ça a été accepté, bien, j'étais bien contente. Mais je me disais
« OK,
si c'est pas accepté, je vais le faire pareil, j'en ai besoin
mm-hmm. ».
Fait qu'on va couper sur les voyages ou sur d'autres choses.
Oui, ça sera pour plus tard.
C'est ça.
On va aller écouter, Sonia, une chanson que tu as choisie, et c'est pas un hasard, et on va savoir tout de suite après l'avoir entendue pourquoi.
Parfait, merci.
C'est la première cause de handicap chez le jeune adulte. Des affinités avec le neurologue que je consulte. Maladie du système nerveux central, oh, aucun doute. Mais classé number one, c'est bien sûr les accidents de la route. Apparemment, y'a pas grand monde qui connaît cette maladie. Rien que le nom, ça fait peur et en plus c'est pas très très joli. J'étais scotché le jour où on me l'a dit. Le neurologue était sérieux, il faisait une drôle de tête avec des phrases toutes prêtes. Je l'ai pas choisi, elle s'est réveillée, elle arrive toute seule. Trop bien tranquille installé, marre de ma béquille et d'aller me coucher. J'ai plus de force, plus de sensibilité sur mon torse, je flippe. J'aurais préféré une bonne grippe. J'ai souvent des fourmis dans les jambes et dans les bras. Assez sûr, ça vous voyait pas, je peux plus danser le cha-cha-cha. Mes nouvelles copines sont des piqûres, belle mixture. C'est pas tous les jours la vie en rose, mais je te plaque ma sclérose. Jamais mon séjour dans cet hôpital. IRM, ponction lombaire et des infirmières pas trop mal. Service neuro-rhumato, il était au troisième étage. Que des personnes âgées, rien à voir avec mon âge. Une super belle chambre avec une toute petite télé. À peine installée, mon cathéter était déjà placé. Le neurologue rentré me demande comment ça va. Je lui dis ben pas trop mal, je préférerais être chez moi. Je n'ai pas choisi cette maladie. Une belle claque, un bric-à-brac. Elle me traque, c'est bien sûr la sclérose en plage. Je pleurais comme un as, tu te tais, tu t'écrases. Tu l'acceptes et tu la fermes et tu repars sur de bonnes bases. Je pensais à ma fille et à ma femme à chaque fois. Et je pensais aussi à tous ceux qui s'inquiétaient pour moi. Avec les corticoïdes, j'avais les nerfs solides. C'est pas tous les jours la vie en rose, mais je te plaque ma sclérose. Sensibilité sur mon torse, je flippe. J'aurais préféré une bonne grippe.
J'ai pas choisi cette maladie. Une belle claque, un bric-à-brac, elle me troque. C'est bien sûr la sclérose en plaques.
Je pleurais comme un as, tu te tais, tu t'écrases. Tu l'acceptes et tu la fermes et tu repars sur de bonnes bases.
Promets-moi.
C'était « Ma sclérose » du chanteur David Enza, un chanteur que je découvre et une chanson que je découvre aussi. Sonia Arsenault, tu as choisi cette chanson, pourquoi?
Parce que je trouve qu'elle représente très bien quand on a le diagnostic de sclérose en plaques puis qu'on vient d'apprendre la nouvelle. C'est un peu tout ça qui se passe.
Mm-hmm.
Puis c'est une chanson qui est quand même très positive, avec un bon beat, que je pourrais dire. Là. Fait que elle t'encourage à continuer et à ne pas laisser tomber. Fait que moi, c'est ma chanson thème que je pourrais dire là, que quand ça va moins bien, je l'écoute et ça m'aide.
Et c'est vrai que la chanson décrit quand même plusieurs, j'ai envie de dire, sensations, émotions, états d'esprit et même ça doit rappeler à beaucoup de personnes des moments précis qu'ils ont vécu dans toute cette progression et cette annonce aussi du diagnostic.
Exactement. Puis elle est sur un beau côté, je trouve, là. C'est avec une belle musique comme ça, puis tout ça, ben ça nous aide à voir ça autrement, puis d'une façon un petit peu plus positive.
Oui, complètement. Ben, merci en tout cas pour ce partage et cette découverte. S'il y en a qui à qui ça fait du bien, hein, tout simplement de l'entendre, ben tant mieux, ça fera ça en plus.
Oui.
J'aimerais qu'on parle de... En fait, suite donc à ton accident et tout ça, tu as dû faire des démarches pour te faire opérer. Entre autres, tu as dû aller jusqu'en Bulgarie pour te faire opérer. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout cet événement, en quoi ça a consisté?
Oui, c'était l'intervention du docteur Pablo Zamboni qu'on parlait beaucoup, tu vois, c'était en 2010.
Okay.
Puis depuis 2009 qu'on en parlait beaucoup. Donc, on a eu beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux à communiquer, à s'informer, à vouloir y aller. Fait qu'il y a beaucoup... Entre autres, c'est là que j'ai rencontré... je ne l'ai pas rencontré physiquement, mais on s'est parlé à cause de ça, là, sur les réseaux sociaux.
Mm-hmm.
Le chanteur David Enza.
Mm-hmm.
Qui vivait aussi un peu tout ce qu'on vivait. Puis là, je suis allée en Bulgarie, j'ai eu mon intervention. Dans les médias, après ça, on a dit que ça marchait pas, puis tout ça. Que tu sais, c'était... Je sais pas trop ce qu'ils disaient, mais en tout cas, ça a comme un peu pété dans l'œuf, là, je pourrais dire, là. Sauf que moi, ça a tellement été positif parce que ils m'ont expliqué qu'est-ce que mes médicaments que je prenais faisaient. Donc, positif et négatif.
Okay.
Puis en arrêtant beaucoup de médicaments grâce à leurs conseils, ben, ça a permis que j'aille beaucoup mieux. Ça a permis que mon système immunitaire se défaisait, tu sais, se brisait plus, en tout cas beaucoup moins pire, que tu sais, la petite pilule que je prenais pour pas shaker, qui me rendait plus faible, plus endormie, tu sais, plus dolle, que je pourrais dire.
Mm-hmm.
En l'arrêtant, je shakais un petit peu, mais j'étais beaucoup plus en forme, beaucoup plus réveillée, beaucoup plus positive. Donc, puis j'ai arrêté du fait même de trembler, tu sais. Parce que je fais autrement, puis je mange mieux, puis tu sais, c'est un peu tout ça naturellement qui m'a aidé. Fait que, oui, cette intervention-là, ben, elle m'a fait évoluer autrement que j'avais prévu, tu sais. Fait que je marche pas plus, mais je vais vraiment mieux, puis depuis 2010, ben, j'ai pas eu de poussée.
Ah, c'est une très belle nouvelle, ça.
Oui, oui. Fait que non, ça a été très positif pour moi. Fait que je pense que ça a été positif pour un tas de personnes aussi.
Mm-hmm.
Peut-être pas physiquement, mais en tout cas mentalement, puis dans notre évolution. Là, on s'est fait expliquer des choses qui étaient très intéressantes.
Puis pour se rendre jusqu'à cette étape-là, il y a eu évidemment une préparation parce que ben, qui dit voyager, intervention et tout ça, comme tu l'as dit, hein, ça coûte des sous, tout ça. Toi, tu as décidé de faire une campagne de financement pour pouvoir en fait débourser tout ce que tu avais à payer pour ça. Et c'est quand même une belle histoire, je te laisse nous la raconter.
OK, ben c'est sûr que c'était avec l'aide de mes amis. Parce que toute seule, on dirait qu'on ne sait pas où se pitcher, là, je pourrais dire.
Oui.
Mais avec l'aide de mes amis, bon, on a fait une campagne de financement en... Tu sais, c'est passé sur le front page du journal de la région. Donc, tout le monde a connu un peu mon histoire. Fait qu'après, on a fait un souper de spaghetti puis deux, trois petites rencontres ici et là, là. Puis j'ai ramassé vraiment beaucoup d'argent. J'ai ramassé... Tu sais, j'avais besoin d'à peu près entre 8 et 12 000 $ pour y aller. Minimum, là.
Oui.
Parce que, tu sais, j'aurais pris mon argent à moi aussi. Puis, j'ai ramassé 28 000 $ Donc,
wow.
Sur les réseaux sociaux, j'avais l'air d'avoir fait une campagne de financement extraordinaire. Donc, tout le monde m'appelait pour avoir des conseils. Mais c'est pas parce que mon spaghetti italien était meilleur ou que mes salles étaient plus belles que les autres. Mais c'est vraiment parce que je reste dans un petit milieu en Gaspésie que tout le monde se connaît. Tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un ou quelque chose comme ça, puis que le monde est généreux, là, mais vraiment, tout le monde voulait que la petite sclérose en plaques qui veut aller en Bulgarie, on veut y aider, puis on veut essayer de voir du changement pour elle, tu sais. Fait que j'ai été vraiment bien soutenue dans cette démarche-là. Puis vu qu'il m'a resté 10 000 $ après, ben j'ai pu donner au suivant puis aider d'autres personnes à aller ou d'autres fondations comme pour les enfants malades, avoir des machines adaptées dans la région.
Mais oui.
Ou des affaires comme ça. Ouais.
Mais c'est tellement que... beau parce que c'est un projet qui a été plus que positif et oui. Tu as tellement voulu bien faire les choses, Sonia, que tu as même consulté ton avocat pour être sûre que tu faisais les choses en bonne et due forme, dans le respect de tout le monde et de tes donateurs.
Oui, parce que t'es mal là, quand t'as tout cet argent-là. J'ai appelé mon avocat pour lui demander est-ce que je suis légale? Est-ce qu'il faut que je déclare ça à quelqu'un? J'appelle-tu les impôts? Qu'est-ce que je fais? J'ai gagné de l'argent illégalement, quasiment. Là, je savais pas. Puis, il m'a dit non, c'est des dons, c'est à toi, tu fais ce que tu veux avec. Il m'a même dit c'est très d'argent, tu peux même faire un voyage avec, c'est à toi, tu fais ce que tu veux.
Ouais.
Mais moi, j'étais pas bien avec ça, là, faire dépenser pour rien. Là. Fait que moi, j'ai préféré donner au suivant. Puis les gens ont apprécié, je pense, que m'avoir aidé moi, ben on a aidé plein d'autres personnes en plus.
C'est franchement, que... c'est une belle histoire, c'est un bel exemple. Hein? Puis si ça arrive à d'autres personnes, bon ben, ils auront une idée de ce qu'ils peuvent en faire ou pas.
Oui, c'est ça.
C'est propre à chacun. Mais ça m'amène à parler de l'organisme, les associations dans lesquelles tu es très impliquée, sachant que tu as été travailleuse sociale déjà.
Oui, c'est vrai. J'étais travailleuse sociale dans ma vie quand je marchais.
Ouais.
Puis j'ai fait quand même un bac puis tout ça, tu sais, fait que j'avais quand même une certaine connaissance. Puis j'ai eu le temps de travailler à la DPJ pendant quelques années. Fait que là, ben, je voulais m'impliquer, faire quelque chose. Fait que je me suis impliquée comme dans le conseil d'administration de l'Association des personnes handicapées de la région, là.
Oui.
Fait que là, j'ai été là-dedans quelques années comme simple administratrice. Et puis, maintenant, je suis rendue trésorière. Fait que, tu sais, ça nous permet de faire des choses pour faire avancer aussi, là. Avec la COVID, tout ça, ça n'a pas été facile. Il a fallu aller chercher, faire attention où est-ce qu'on allait mettre nos sous et chercher nos sous.
Et oui.
T'sais, les campagnes de financement étaient plus disponibles. Ben, tu sais, il était plus faisable là, maintenant. Fait qu'en tout cas, bon, ça m'a permis de s'être bien tiré là-dedans. Puis aussi, cette année, je me suis impliquée dans le conseil de l'administration de la maison Marie-Pierre. C'est une maison qui a 8 résidents qui vivent là avec des problèmes déficience intellectuelle ou déficience physique, ou les deux peut-être des fois. Là.
Mm-hmm.
Puis ça m'a permis vraiment, tu sais, je trouvais que c'était pas assez... Il manquait de ressources, il manquait d'équipement, il manquait d'affaires comme ça, à mes yeux, à moi.
Oui, et de sensibilisation aussi auprès des gens.
Hein. Oui, fait qu'ils fonctionnaient bien chaud qui fonctionnait bien pour rien avoir, là. Mais fait que là, je fais tout ce que je peux pour essayer que ce soit le mieux adapté possible, puis que les intervenants et les clients soient le mieux traités possible aussi, là.
Tout à fait.
Que ça, là, ça fait vraiment... Ça m'a fait un vrai baume sur le cœur, parce que c'est comme quand je travaillais, là. Je me sens utile et impliquée. Là.
Et voilà. Ben, que... Comme tu dis, c'est que ça t'a un peu permis de découvrir une partie de ta vocation.
Oui, c'est ça. Puis en faisant du bénévolat, ben, je me valorise autant, là, sinon plus. Là.
Ben oui, j'imagine.
Oui, c'est ça. Fait que c'est ça qui me garde vivante et active dans mon milieu.
Ben, et je suis certaine que tous les gens qui travaillent avec toi ont beaucoup de chance de t'avoir avec eux. Et même, tu poses des actions concrètes. Parce que même la plage, en fait, dans ton village, elle a ta petite touche personnelle. Hein? Est-ce que je peux dire ça comme ça?
Ben, je savais que ça existait parce que je regarde beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis en Europe, ils sont vraiment plus évolués que nous, là, je pense. Puis il y avait des tapis de plage qui se mettaient sur la plage pour que les fauteuils roulants allent un peu plus loin dans le sable.
Mm-hmm.
Fait que là, je me disais, ça doit exister en quelque part, on doit pouvoir avoir ça. Puis on l'a trouvé aux États-Unis. Fait que là, on s'est demandé à l'URLS, là, l'organisme pour avoir des sports puis loisirs adaptés.
Oui.
Fait que ils ont donné des subventions pour ça. Puis il fallait être affilié comme à la municipalité. Fait que la municipalité qui faisait, qui développait le plage finalement.
Mm-hmm.
Puis nous, ben, ça permettait aux handicapés puis aux fauteuils roulants puis finalement à mobilité universelle. Là,
oui, c'est bien.
Que je pourrais dire. Puis ça a permis à beaucoup de gens d'y aller. Là, ça fait 3 ans qu'on l'a.
Mm.
Puis là, d'année en année, ils ont commandé un deuxième tapis l'année d'après. Là, cette année, ils vont mettre des tables de pique-nique adaptées avec des parasols adaptés, tu sais, pour nous permettre de plus y aller, d'y aller de plus en plus longtemps, là, tu sais. Fait que non, on évolue tout le temps.
Oui.
Fait que quand j'ai amené ça comme idée à notre association, ben ils étaient vraiment d'accord, fait qu'ils m'ont aidé à chercher puis à faire les démarches avec les différentes associations, là.
C'est magnifique. En tout cas, ça nous donne envie. Hein. Si certains d'entre nous avons envie et pouvons cet été aller faire un petit tour en Gaspésie, dans ton coin de paradis, Sonia, ben, je souhaite aux personnes d'aller justement profiter de ces tapis et ces adaptations pour profiter de ton coin magnifique. En tout cas, merci, oui. Sonia. C'était un plaisir de te parler. Merci de nous avoir partagé ta belle humeur et ton attitude positive.
Ben, merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup. Et restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois Alex Boivin. À tout de suite.
Vous écoutez Les Passions de Camille avec Camille Chaille.
Et oui, ici Camille Chaille et je reçois mon deuxième invité qui s'appelle Alex Boivin. Il a 24 ans, il est originaire de Gatineau. Mais il habite maintenant à Chelsea, en Outaouais. Bienvenue, mon cher Alex.
Bonjour, Camille. Ben oui, très content d'être avec vous aujourd'hui.
Oui.
Bonjour à toute l'équipe aussi, en arrière des micros, en arrière de la vitre, de l'autre côté aussi.
Que c'est gentil, mais on dirait que le fait que tu penses à eux, Alex, est un peu une connaissance donc de ce monde et ce milieu-là déjà.
Ouais, ben dans mes 24 ans de vie là, on dirait que j'en ai vécu 55 là, je sais pas trop comment j'ai vécu toutes ces expériences là, mais définitivement une de mes passions, un de mes domaines dans lesquels j'ai déjà travaillé d'ailleurs, c'est la radio, l'animation, un peu comme toi Camille,
mm-hmm.
Autant à la radio qu'à la télévision, puis ben mes meilleurs amis à l'époque là, c'était souvent ceux qui étaient en arrière des consoles là, parce qu'on veut bien sonner, puis veux pas, on connaît bien notre talent en tant qu'animateur, mais ensuite ben faut qu'on se fasse entendre aussi à la maison. Donc oui, définitivement, je connais un peu ce milieu-là.
Ben en tout cas, sache que tu fais un heureux parce que celui dont tu parles, tu dis qu'il est derrière la vide, qui est le metteur en onde, est bien content de t'entendre parler de tout ça. Ben écoute Alex, puisqu'on en parle, là tu es étudiant en ce moment.
Absolument. J'étudie, en fait, là, bon, je suis originaire de l'Outaouais, comme tu l'as bien dit, Camille. J'ai grandi en ville, à Gatineau. Maintenant, on est en banlieue. Là. Honnêtement, je dirais qu'on est à 2 minutes de notre ancienne maison. On n'est vraiment pas très, très loin, mais changé de village, on va dire ça comme ça. On est à Chelsea maintenant. Je fréquente l'Université du Québec ici en Outaouais. Je fais un baccalauréat en communication, justement. Ça a toujours été une de mes grandes passions également, là, tout ce qui est communiquer, la beauté des mots, la beauté des mots, oui. Puis de pouvoir discuter, de pouvoir parler un petit peu de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, puis où est-ce qu'on s'en va. Donc, ça tombe un peu dans ma palette, encore une fois, aujourd'hui, là, de tout ce dont on va discuter. Puis, je suis en train de finir aussi une mineure en psychologie du travail des organisations, gestion de l'être humain, gestion d'une équipe de travail, voir comment est-ce qu'on fait pour développer, finalement, dans un milieu de travail, là, ses capacités, ses compétences, puis d'arriver à son plein potentiel aussi au courant de sa carrière.
Wow! Fouf! C'est de juste de t'entendre, c'est incroyable. Je veux dire, là, c'est comme, j'ai envie de dire, on attend la suite de voir tout ce que tu vas faire suite à ces magnifiques études, mais on sent que tu as envie, hein? On sent que quand tu parles de passion, c'est exactement ça.
Ben, j'en ai plusieurs. je vis presque à tous les jours ma passion. Autant au niveau, bon, moi, je suis gérant d'artiste, je travaille un peu justement dans la gestion de la carrière, déjà de deux artistes incroyables, ici en Outaouais, puis un peu partout au Québec et aux États-Unis aussi, puis du côté du Canada anglais aussi. On travaille là, sur plein de projets de ce côté-là. J'ai un background aussi vraiment très, très poussé, plus là, dans le côté entrepreneurial. En fait, dans les dernières années, j'ai donné des cours dans les écoles secondaires, des cours parascolaires, à des jeunes qui voulaient apprendre comment lancer une entreprise. Moi-même, j'ai grandi dans un contexte où mon père puis ma belle-mère, à l'époque, avaient une entreprise. J'ai travaillé autant comme le commis dont on vendait de la saucisse à l'époque, de la saucisse gastronomique. Donc, j'ai travaillé comme commis à la vente de saucisses. Avec le temps, tu apprends comment gérer finalement ce magasin-là, puis comment gérer une entreprise, une équipe d'employés. C'est un peu ça, je pense, qui m'a donné la piqûre pour aller travailler ensuite là, vraiment dans le domaine de l'entrepreneuriat aussi. Là. Fait que c'est pour moi, il n'y a pas de vie sans passion.
Que c'est bien dit. Et juste à t'entendre, Alex, ce que les gens ne savent pas, c'est que à côté de tout ce que tu fais, tu le fais aussi évidemment à ta façon, à toi. Parce que tu es né avec une ou des malformations congénitales?
Oui, deux grosses, majeures malformations congénitales, autant à mes bras qu'à ma jambe droite. Mes bras, là, on va commencer avec ça. On va aller de haut en bas. mes bras, mes coudes sont soudés des deux côtés, c'est-à-dire que je ne peux pas du tout les bouger depuis ma naissance. Ils sont là. J'ai tout l'équipement pour pouvoir fonctionner, mais sont collés finalement, donc on peut pas, je peux pas du tout les utiliser. Okay. En même temps, les bras sont beaucoup plus courts que ceux d'une personne, on va dire entre guillemets, normale. Mm-hmm. J'aime pas vraiment ce terme-là, mais on va l'utiliser pour les biens de la conversation. Là. Une personne normale entre guillemets. Puis mes mains, j'ai deux doigts par main aussi. Lesquels, j'en ai aucune idée. mais c'est ceux que j'ai. Puis j'en suis bien fier. Puis en même temps, depuis que je suis tout petit, je porte aussi une prothèse à mon pied droit. Mon pied droit était là à ma naissance, mal formé également. C'était un peu comme une genre de grosse patte d'éléphant. Là, mes orteils pointaient vers le bas. Okay. Puis à l'âge de 9 mois, je me suis fait amputer le pied droit à la hauteur de la cheville. Puis depuis ce temps-là, je porte une prothèse pour me déplacer, pour faire mes activités, pour jouer au hockey, par exemple, l'hiver. Puis l'été aussi, en patin à roue alignée, puis soccer, toute l'équipe. Ça ne m'a jamais arrêté, finalement.
Ben oui, non, mais c'est exactement ce qu'on se dit quand on t'entend. Qu'est-ce qui t'arrête, au final? C'est plutôt ça la question qu'on devrait te poser.
Ben, la seule chose qui m'a arrêté, en tout cas, du côté des sports, c'est le ski. J'ai absolument aucun talent en ski alpin, en tout cas. Okay. J'en ai fait 3 descentes. Les 3 descentes se sont tournées dans la poudreuse à gauche de la piste. Puis j'ai jamais rembarqué sur des skis depuis ce temps-là. C'est là où est-ce que j'ai tracé ma limite. Là, mais à part de ça, je les découvre encore. Je les repousse à chaque fois quand j'ai l'opportunité de le faire. Puis à chaque fois, on dirait qu'on se met des nouvelles limites, des nouveaux buts. Là, oui. Puis je pense que c'est un peu la même chose pour toi aussi, Camille, oui, là, de pouvoir développer finalement toutes ces expériences-là, puis de pouvoir se développer aussi à travers tout ça, puis découvrir de nouvelles passions en même temps.
Je suis tellement d'accord avec toi. C'est vrai, hein, tous ceux qui en fait, j'allais dire, tous ceux qui ont un handicap ou même mieux, tous ceux qui ont une différence et qui l'acceptent et qui l'assument, Je pense que quand on le vit de cette façon-là, ben oui, on veut juste découvrir de plus en plus d'activités, de sensations et de compétences, oui.
Se découvrir, mais aussi découvrir les limites des autres autour de nous. C'est ce que j'aime beaucoup voir aussi en même temps, c'est-à-dire que autant ma famille puis mes amis comprennent ma différence, comprennent mon but finalement dans cette vie-là, mes passions puis tout ça. Mais je pense qu'ils comprennent pas eux-mêmes non plus à quel point ils ont ce potentiel-là, eux aussi, qu'on ait tous nos membres ou qu'on en ait un peu moins ou qu'on ait un plus gros nez, un plus petit nez que quelqu'un d'autre, ou peu importe. Il y a toujours là, ce potentiel-là pour tout être humain. Puis c'est un peu pour ça que je suis allé étudier un peu dans le domaine de la ressource humaine, on va dire ça comme ça, de la gestion de l'individu. Là. C'est d'aller développer puis débloquer un peu cette mentalité-là de on est capable d'essayer, puis en essayant, bien, on se développe en tant qu'individu, mais aussi au-delà de nos compétences qu'on connaît en ce moment, pour être capable d'aller repousser ces limites-là professionnellement au départ, mais ça nous donne toute la confiance qu'on a besoin pour le faire ensuite dans notre vie personnelle aussi. Là.
Alex, tu sais, t'as dit tout à l'heure que on dirait que t'en as 55 dans une vie de jeune homme de 24 ans, mais là, c'est l'homme de 55 ans qui a parlé.
Oui, je pense que oui, je commence à avoir mal dans les genoux en disant ça, là.
Franchement, c'est tellement bien résumé, bien dit, bien expliqué. Puis j'ai envie de t'entendre dans, justement, les défis qu'on peut vivre au quotidien. Toi, t'en as eu à ton adolescence. T'as dû apprendre à développer des trucs, entre autres avec l'aide de ton père aussi. Mais qu'est-ce qui t'a donné un peu de fil à retordre dans ta vie de jeune adolescent?
Ben c'est fou hein, à quel point on devient créatif quand on n'a plus le choix d'être créatif finalement, puis de découvrir des nouvelles choses, des nouvelles manières de faire les choses en général. En tant que jeune adulte maintenant, mais aussi jeune adolescent à l'époque, on arrive à un moment où on commence à avoir un peu de pilosité faciale, de la barbe, de la bonne vieille barbe, puis on commence par la moustache molle classique d'un adolescent de 12, 13, 14 ans qui commence à vouloir se faire pousser ça là, pour avoir l'air cool à l'école secondaire, mais clairement, ça ne l'était pas du tout. Puis mon père était très direct avec moi à cette époque-là. Puis il me l'a laissé savoir, mais j'étais pas nécessairement à l'aise, puis en même temps, ça ne tentait pas non plus de dépendre de quelqu'un pour m'aider à me raser. Bon, évidemment, comme j'ai pas de coude, c'était plus difficile. Les rasoirs qu'on connaît là, sont un petit peu trop courts pour que je puisse bien faire le travail, puis que je puisse me rendre à des endroits finalement qui sont peut-être un petit peu plus complexes là, dans le cou, des trucs comme ça.
Mais je t'arrête juste pour savoir concrètement, tu utilises quand même les deux doigts que tu as sur chaque coude?
Oui, absolument. C'est extrêmement important pour moi de les utiliser aussi parce que c'est ce que je connais.
Ah oui, oui,
c'est
voilà.
Ce que je connais, puis si, même souvent on me demande qu'est-ce que tu ferais si jamais on pouvait t'en donner plus, puis d'avoir tous les doigts de la main finalement, normalement, il y en aurait de trop qui seraient là dans le chemin là, pour moi. Là. Tu sais, ça serait très étrange comme sensation pour moi. Bref, pour revenir un petit peu là, justement à cette histoire-là, mon père et moi, on s'est assis un dimanche après-midi, puis on a décidé de se mettre un peu la tête dans comment est-ce que je pourrais devenir plus autonome aussi dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien. Ça a été important pour moi de pouvoir découvrir un petit peu ces trucs-là qui me permettraient peut-être, bon, je suis un amateur de viande, là, je m'excuse aux végétariens qui nous écoutent aujourd'hui, mais je suis un amateur de viande, puis c'était extrêmement compliqué pour moi, par exemple, de pouvoir couper ma viande toute seule, de tenir ma fourchette puis mon couteau d'une main individuelle, c'était plus complexe, c'était plus difficile. Il a fallu qu'on trouve des adaptations. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que mes mains sont un peu plus grosses aussi. J'ai un petit peu plus de musculature autour de ces doigts-là aussi qu'on développe au cours de sa vie. Donc, ça m'a permis de pouvoir le faire maintenant toute seule, d'attacher mes souliers aussi, tout simplement. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps de pouvoir attacher mes souliers. Je l'avais appris quand j'étais à la maternelle, mais c'était pas quelque chose qui était nécessairement naturel pour moi ensuite parce que, bon, j'ai découvert que j'avais des souliers qui n'avaient pas de lacets pendant super longtemps, des velcro, des trucs comme ça, mais rendu à l'école secondaire ou quand on arrive là, vers le temps de notre bal de finissant, ça n'existe pas là, des souliers avec sans lacets pour que ça ait l'air beau là, avec notre habit puis tout ça. Fait que, puis moi ça a été par un samedi où est-ce que je jouais au soccer. Puis j'avais un match de soccer puis il y avait personne pour m'aider à attacher mes souliers. Il a fallu que je me lance là-dedans toute seule puis que je suis allé sur YouTube finalement puis des tutoriels de comment est-ce qu'on attache nos souliers puis je l'ai appris à 15 ans, tu sais.
Oh, wow.
De comment rattacher ses souliers comme il faut. Puis le rasoir, ben la créativité est venue jouer un gros point finalement là-dedans, un gros rôle. On avait mangé, je pense, des sushis la veille ou des trucs comme ça. Donc, on avait des baguettes là, de sushis qui traînaient dans notre comptoir en haut, là, dans la cuisine. On est allé chercher ça, du tape électrique, puis on a rallongé finalement le rasoir pour que je puisse maintenant le faire toute seule, sans l'aide de personne, puis que je sois capable d'être le plus autonome possible là, dans des activités qui sont bon très simples là, pour la majorité des gens, mais qui deviennent un petit peu plus complexes pour des personnes qui ont des différences physiques justement auxquelles on n'aurait pas pensé quand on a inventé, par exemple, le rasoir, par exemple, les lacets ou les trucs comme ça. Là.
En tout cas, bon, ce qu'on en retient, c'est bravo, parce que la créativité, comme tu dis, elle est là pour nous aider. Et bon, si on a des baguettes qui traînent chez nous, on sait que ça peut paraître banal, mais comme quoi, quand c'est transformé, on peut toujours trouver des trucs pour nous simplifier la vie. Je te propose, Alex, qu'on ait écouté une chanson qui, je pense, a beaucoup de valeur à tes yeux et à tes oreilles, évidemment. On en reparle tout de suite.
Je t'en prie, laisse-moi être
Quelle belle voix. Alex Boivin, tu sais quoi, j'ai envie de te laisser nous déprésenter cette chanson-là, nous dire le titre et le nom de l'artiste.
Bon, évidemment, c'est pas moi qui chante. Là. c'est vraiment pas moi qui chante. C'est Emmanuelle Kerry, qui est une artiste ici de l'Outaouais, là, originaire de Gatineau, tout comme moi. Elle a 18 ans présentement. Et c'est la première chanson qu'on a lancée tous les deux ensemble, là, une des artistes avec qui je travaille. Ça s'appelle « Avec toi ». On peut retrouver tout ça là, sur les plateformes d'écoute en ligne, qu'on parle de Spotify, Apple Music, iTunes, ou bien encore le vidéoclip également sur YouTube. Mm-hmm. C'est, comme tu l'as dit avant la chanson, Camille, là, c'est une chanson qui revêt beaucoup d'émotions, qui amène beaucoup d'émotions pour moi, qui est extrêmement importante dans ma jeune carrière de gérant d'artiste, parce que ça a été la première chanson qu'on a lancée. Que j'ai lancé en fait en équipe avec l'artiste dans ma carrière. Puis c'est une chanson qui est si belle, qui est si incroyable, la voix de cet artiste-là. Puis je le répète, elle a 18 ans. Là. C'est incroyable à quel point elle a de la maturité, elle apporte quelque chose dans ses textes aussi. Pour moi, là, c'est l'incarnation d'une naissance d'une star, en fait, là, dans le star système québécois ici pour commencer. Puis ensuite, on amènera ça un peu partout en France et en Europe, là, mais on va commencer par le Québec. Je pense que c'est important pour moi de pouvoir vous mentionner aussi que je crois énormément à la culture québécoise, les jeunes artistes, que ce soit de Gatineau, de l'Outaouais ou bien même de l'ensemble du Québec. Là, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de talent. Puis ça, c'est une de ces perles-là que j'ai été capable de trouver ici dans ma région, là, mais il y en a un paquet d'autres là, partout aussi dans le Québec, là, qui attendent juste de se faire entendre.
C'est beau de t'entendre parce que, encore une fois, on entend bien, on le voit que tu fais ça par passion, par amour. On dirait que j'ai un élan de, en fait, te demander comment tu rencontres ces artistes ou comment des artistes peuvent te rencontrer parce qu'on dirait que les deux, d'un côté comme de l'autre, vous devez vous rencontrer et travailler ensemble.
C'est vrai, tu as absolument raison. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir participer à secondaire en spectacle, les spectacles de la finale locale à l'époque quand j'étais au secondaire. Moi, j'étais extrêmement sportif là, quand j'étais au secondaire. C'était le basketball, le football, le soccer, le hockey, okay. Jusqu'à ce que j'arrive en secondaire 5 puis que je découvre ce que c'était que la scène. Puis de pouvoir faire, bon, moi, c'était l'animation, de pouvoir faire des blagues, de pouvoir faire rire les gens dans une salle de spectacle avec, bon, à l'époque, là, ça existait encore des salles de spectacle, on va y revenir, là, mais ça prend encore un petit peu de temps. Puis évidemment, ça a été une révélation pour moi de pouvoir vivre cette expérience-là quand j'étais à l'école secondaire, ce qui m'a donné le goût vraiment de m'impliquer aussi ensuite dans le concours en général de ce que c'était que secondaire en spectacle, autant au niveau du jury des finales locales, du jury aussi des finales régionales ici en Outaouais également, puis de pouvoir participer un petit peu là aussi à la formation de ces jeunes artistes-là. Quand on arrive à la finale régionale, là, il y a des petites formations qu'on offre également pour développer finalement ce sens créatif-là de l'artiste. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir connecter avec certains de ces artistes-là. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer ces artistes-là. Puis Emmanuel, c'en est une que j'ai rencontrée directement dans son école secondaire, dans mon école secondaire aussi. On vient de la même place, finalement. Là. Puis moi, j'étais juge quand elle était en secondaire 2, à secondaire en spectacle, la finale régionale, la finale locale, pardon. Puis je me rappelle, après le spectacle, d'être allé la voir, puis d'aller voir son père aussi. J'avais 18 ans à ce moment-là, puis je me prenais un peu pour un autre, on va se dire. Puis je suis allé voir son père, puis je lui ai dit, votre fille, elle a beaucoup, beaucoup de talent. J'ai l'impression qu'on va travailler ensemble un jour. Puis j'avais aucune idée de ce qui s'en venait,
Wow.
de ce qu'on était pour faire. Puis finalement, ben l'histoire a fait en sorte que ça a été le cas. Puis on a beaucoup, beaucoup d'ambition pour la suite. On a beaucoup de talent aussi, évidemment, dans cette jeune fille-là. Puis j'ai l'impression qu'on va entendre Emmanuelle Kerry beaucoup plus souvent qu'à notre tour là, sur les ondes des différentes radios, des différentes télévisions avant longtemps au Québec ici. Là.
Bien, on attend que ça. Et je t'amène ailleurs, je ne sais pas si c'est de t'amener ailleurs que de te poser cette question, mais vu comment tu es entreprenant pour ton côté donc professionnel, je te taquine un peu Alex, mais j'ai envie de savoir dans ton côté plus justement intime, personnel, sentimental, tu es célibataire en ce moment?
Oui, c'est un choix en même temps, je pense que... par le temps puis par l'époque dans laquelle on vit présentement, évidemment, c'est un peu plus complexe de pouvoir faire des rencontres. Là.
Oui, aussi.
C'est une autre histoire, puis c'est pas une excuse ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui est d'usage présentement, je pense, qui est normal. Puis c'est pas juste pour moi, c'est pour tout le monde en même temps.
Mm-hmm.
Mais c'est un choix aussi, je pense, de pouvoir s'adonner à un développement peut-être un peu plus rapide d'une carrière, un développement peut-être un petit peu plus rapide aussi d'un côté plus personnel, mais pas nécessairement sentimental, c'est-à-dire je fais beaucoup, beaucoup de croissance pour moi-même, je m'écoute énormément, je réfléchis énormément par rapport à ce que je veux dans la vie, pas juste professionnellement, mais aussi personnellement. J'ai déjà une bonne idée de ce que j'accepte puis ce que j'accepte pas quand je vais rencontrer des nouvelles personnes, par exemple, que ça soit d'un point de vue amoureux ou bien juste d'un point de vue amical. Puis j'ai la chance d'être bien entouré aussi. Là. J'ai une famille extrêmement aimante. J'ai des amis qui sont plus que des amis. Je pense que c'est une deuxième famille en tant que telle, vraiment, ces amis-là. D'ailleurs, juste avant qu'on commence... à se jaser aujourd'hui, là, Camille, j'étais au téléphone avec quelqu'un d'autre là, qui est en Gaspésie. Puis c'est une amie que j'ai rencontrée à travers l'association des amputés de guerre dans laquelle j'ai grandi. Puis c'est quelqu'un qui est extrêmement important pour moi. Je chéris à chaque fois tous ces moments-là qu'on peut se parler parce qu'on se parle pas nécessairement souvent, mais on est très, très proches.
Comme quoi, l'amour, c'est pas que en couple, c'est l'amour, c'est plus grand que ça, c'est tout le monde, c'est tous les gens qui nous entourent.
C'est très familial, en tout cas, pour moi. Puis j'étais un gars de famille, tu sais, j'ai grandi, mes parents se sont séparés quand j'étais quand même jeune, à 8 ans, mais chacun de leur côté, ils ont été capables de me montrer c'était quoi l'amour familial, l'amour avec un grand « al ». Pas juste amoureux, puis je pense que c'est ça qui m'aide beaucoup dans ma vie de tous les jours aussi à savoir que peu importe que j'aille un copain ou une copine, que j'ai des amis ou que j'ai pas d'amis, en ce moment, la beauté de la chose, c'est que je me sens bien. Puis que je suis dans une bonne disposition pour être capable d'y arriver si les circonstances le permettent.
Oui, puis c'est tout ce qui compte. Ben,
c'est ça, exactement. Puis éventuellement, bon... je sais que je vais avoir une famille et tout ça, puis je ne peux pas faire ça toute seule. Là. J'ai besoin d'aide.
Oui, un petit peu.
Je peux envoyer mon CV, là, mais c'est pas mal que ça fonctionne.
Non,
hein,
c'est ça. Alex, en une minute, on parle d'amour. Quel est le message d'amour alors que tu aimerais transmettre pour terminer à nos auditeurs, pour leur donner un coup de pouce dans la vie en général?
Ben, je pense que c'est important, d'abord et avant tout, puis je pense que c'est un cheminement qui est extrêmement long, sinueux et complexe à faire, mais c'est important de le faire, puis on le fait à travers toute notre vie. Il faut apprendre à se connaître, nous, avant de connaître les autres, puis c'est en apprenant à connaître les autres qu'on apprend à se connaître soi en même temps. C'est vraiment très très complexe, là, c'est très philosophique ce que j'essaie de dire, là, mais... tout ça pour dire qu'il faut aller à la rencontre des gens puis rester quand même à l'écoute de nos besoins, à l'écoute de qui on est. Parce que si on n'est pas capable de se connaître puis de savoir qu'est-ce qu'on accepte pas, où est-ce qu'on veut s'en aller, professionnellement, personnellement, on n'arrivera jamais à rien, puis on a un potentiel en dedans de chacun de nous. Je pense que c'est important qu'on le sache, qu'on soit capable de l'exploiter, qu'on soit capable de l'explorer, puis qu'on soit capable, évidemment, aussi de le partager le plus possible. Parce que la beauté de la chose, c'est qu'on est un être humain, puis l'être humain, c'est une créature qui est extrêmement sociable. Et faut en profiter. On est en 2021 quand même à l'ère des réseaux sociaux, puis il faut continuer à amener un petit peu là, cet amour-là aussi sur l'Internet.
Et, oui, et le contact humain. Merci infiniment, Alex. C'était un plaisir de te parler. Merci aussi à tous nos auditeurs qui sont avec nous à chaque semaine. Je vous rappelle le site www.canalm.vusetvoix.com pour aller réécouter les émissions ou sur toutes les plateformes de diffusion de balado. Merci à toute mon équipe, Mathieu Tessier à la mise en onde, Claire Guérin, ma recherchiste, Jean-Sébastien Laliberté à l'habillage sonore. À la semaine prochaine, tout le monde!